Allez-y, Matt, faites l'annonce. Bien, je suis Matt Ashtani. Bienvenue au groupe de travail de WIS le mercredi 10 avril 2013. Je vous rappelle de dire vos noms et de parler au micro lorsque vous parlez et de parler lentement et clairement pour les interprètes. Merci. Bonjour tout le monde, c'est Carlton Samuels qui parle. Ça fait du bien de vous voir tous ici. Je suis Carlton Samuels, je suis le président du groupe de travail WIS pour Adlarge. Nous allons passer à peu près une heure à discuter WIS. Si vous voyez sur l'écran de droite, on a l'ordre du jour. Donc, l'idée est de vous donner une mise à jour de notre situation actuelle avec WIS et de vous donner une perspective de ce que l'on va aborder. À ma gauche, nous avons certaines des personnes qui vont participer dans quelques instants aussi. Donc, sans plus, on a une heure. Donc, je voudrais commencer par demander au département des affaires juridiques d'ICANN de nous donner une mettre à jour sur le WIS et les négociations. Merci Carlton. Je suis Samantha Eisner, conseillère en chef chez ICANN. Je fais partie d'ICANN et de son équipe de négociation des RAA depuis novembre 2011 et je suis venue vous parler des différents groupes d'ALAX qui portent sur les RAA depuis. Et je suis venue le faire depuis cette époque. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer de la session des RAA de lundi après-midi, mais lors de cette réunion, je sais que, en fait, la version préliminaire des RAA ont été publiées donc, le 7 mars. Et cette version publiée n'était pas un document final, mais il reflétait des principes et des accords, mais ça avait inclus aussi les différences entre l'équipe de négociation des RAA et ICANN. Depuis le 7 mars, ICANN et les bureaux d'enregistrement ont négocié constamment. On se réunit presque tous les jours ou tous les deux jours pour essayer d'identifier ce qui nous manque. Et ici à Beijing, on continue de maintenir ces réunions. Et lundi, on a annoncé quelque chose qui n'a pas été fait, mais on avait un accord en principe sur toutes les parties de la négociation. Et je suis soulagée, en fait, de pouvoir vous annoncer qu'à la fin de 18 mois de négociation sur ce document, on a ajouté beaucoup d'informations clés. Vous vous souviendrez sans doute qu'on vous a présenté les 12 points d'applicabilité de la loi, et la GNSO et la LAC et leur équipe conjointe de rédaction de recommandations ont présenté un document à la fin de leur discussion sur ce qu'ils avaient adopté. Donc ICANN a montré comment négocier et on a atteint beaucoup de nos objectifs. On a maintenant une obligation pour les bureaux d'enregistrement et c'est qu'ils doivent vérifier et valider d'abord les données WIS qu'ils reçoivent et ils doivent stocker les informations des propriétaires. Ils doivent vérifier que le format soit correct, qu'il y ait toutes les informations dessus. Ils doivent aussi vérifier que ce soit par email ou par téléphone, que le registrant et le propriétaire du compte soient différents. Et c'est une nouveauté. Je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait attention à ce processus au sein d'ALAC pour savoir comment résoudre ces problèmes d'inexactitude de WIS. Et avec les exigences de validation et d'accréditation, on croit qu'on a vraiment avancé. Et puis, on a des informations de contact qui doivent être publiées. les informations aussi qu'on a remis à Cannes sur les revendeurs, les affiliés, les filiales. Il y aura de nouvelles informations publiées à partir de ce nouvel accord RA. Et on sent que ces accords vont donner à tout le monde, pas seulement au bureau d'enregistrement, qui ont beaucoup travaillé pour trouver la façon d'intégrer ces nouvelles obligations, mais aussi aux personnes qui accèdent à WIS, les personnes qui enregistrent des adresses et des sites, pour qu'on puisse tous faire plus de confiance à la chaîne d'enregistrement. Donc, c'est une mise à jour de haut niveau et je suis ouverte à répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci, Sam. C'est Carlton qui prend la parole. On passe directement à la partie suivante. On sait qu'il y a eu une mise à jour. Et on a Michele Nelon ici, qui fait partie du regroupement des bureaux d'enregistrement. Il a toujours participé avec nous à large. Et on voudrait que Michele fasse ses commentaires là-dessus. Michele Nelon qui prend la parole. Est-ce que vous voulez une réponse longue, courte? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, une réponse courte, dit Carlton. Bien, merci, dit Michele. J'ai maintenant les bons paramètres pour travailler. Donc, par rapport au RA 2013, j'ai été assez claire par rapport à mes sentiments. Le long des étapes des négociations, les gens d'ICANN n'ont pas été vraiment satisfaisantes. Je n'étais pas ravie ces derniers mois, pour se dire. Mais en tout cas, maintenant, je suis content. On a modifié la langue. On ne va pas trinquer, hein, mais bon. Depuis notre point de vue, je suis un bureau d'enregistrement européen. ALAC sait qui je suis, mais l'une de mes préoccupations liées à ce qu'il y a à faire ou avec les contrats ou avec ICANN porte sur les obligations que j'ai déjà selon la loi européenne qui jusqu'à présent n'était pas vraiment liée au contrat d'ICANN. Je n'ai pas vu la rédaction finale, mais en tout cas, ICANN respecte le concept de loi locale. Ce que je félicite. Et si vous êtes. Donc, si vous étiez dans la session du GAC, vous aurez vu que la Commission européenne l'a mentionné aussi. Et je pense que Suzanne des États-Unis l'a aussi mentionné. Donc, par rapport à beaucoup des problèmes sur lesquels ICANN s'est centré par rapport à WIS, toutes les informations doivent être validées simplement. Donc, on n'aura pas autant d'informations dont on n'a pas besoin. Je ne sais pas comment le dire. En fait, je n'ai pas vu la rédaction finale. Mais, par exemple, si vous travaillez sur la base de la supposition que, et c'est un exemple, hein, je ne veux pas que vous me le reprochiez dans 3 mois, mais un code postal du Royaume-Uni, par exemple, est composé de numéros et de lettres. Dans les États-Unis, ce sont des chiffres. Et parfois, ailleurs, il n'y a même pas de code postal. Donc, si une personne saisit un code postal de 6 chiffres en Irlande, ça veut dire que ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas de code postal. Si vous voyez quelqu'un qui nous donne un numéro de téléphone avec trop peu de chiffres ou trop de chiffres ou qui ne correspond pas au format correct, ces données sont inutiles. Donc, en fait, ça élimine vos inquiétudes, ces inquiétudes que vous avez eues depuis un certain temps. Donc, vous ne serez probablement pas d'accord avec nous sur tous les points, mais c'est bon si on peut s'engager avec vous de temps en temps.
Merci, Michele. Nous sommes très contents et que vous soyez satisfaits de ce point-là. La prochaine personne, c'est Alan Greenberg. Alan a travaillé sur une des déclarations de position de Alak at large. Donc, Alain va nous donner ses impressions des 27 du RAA de 2013. Pardon. Bien, je dirais qu'on a pratiquement tout dit, mais tout a été pratiquement dit par Michele parce que le résultat d'accomplissement des négociations, je pense qu'il y a beaucoup d'accomplissement de notre côté aussi. J'ai lu le RAA pendant longtemps, les RAA pendant longtemps. Et je disais que si quelqu'un essayait de décrire un contact de la pire façon possible, et surtout du point de vue d'ICANN et des utilisateurs, il n'aurait pas pu faire un meilleur travail. Ça aurait été difficile de faire mieux. Voilà. Donc ce contrat est vraiment plus clair, beaucoup plus clair. On définit les termes qu'on utilise et des fois des termes très importants comme par exemple les revendeurs. Il y a certaines parties qui sont sur les services de proxy et sur la confidentialité. Hein? Peut-être qu'on pourra en avoir un peu plus, mais bon. La déclaration d'exactitude de Whois, la partie des sanctions, les droits et les responsabilités, un nouveau mécanisme pour renouveler ou pour changer le contrat, pour modifier, pour amender le contrat dans des années, dans le futur, hein, avec une certaine clarté plutôt qu'un texte qui donne lieu à une série d'interprétations. Et donc, je dirais que lorsque Alak a fait une série de déclarations, j'ai dit, s'il vous plaît, arrangez-moi ça. Je ne dis pas que tu ne l'as pas dit. Hein. On n'est pas d'accord sur certains éléments, mais on n'a jamais, ou en tout cas, je n'ai jamais dit, ou je n'ai jamais suggéré que tu n'avais pas dit quelque chose de positif dans le fait d'inclure la loi locale quelque part. Et je dois dire que je dois remercier Alak pour m'avoir soutenu à cette époque-là. Donc, est-ce que c'est le meilleur RAA du point de vue de l'utilisateur? Probablement pas. Je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait modifier et améliorer, mais il y a quand même une grande amélioration. Et je pense que dans le futur, hein, quand je verrai la rédaction finale, je pense que je serai très content et je pense qu'on va le signer. Merci, Alan. Maintenant, Holly, qui est à côté de moi, Holly Rich, qui est la présidente du groupe de travail des bureaux d'enregistrement d'at-large et qui est une collaboratrice et concernant le travail qui a été fait sur la remise à jour de Whois et des RA. Donc, Holly, vos impressions, s'il vous plaît. Merci, Carlton. Holly Rich. Je dirais que lorsqu'on commence à dire qu'on a terminé des choses, la première chose, c'est que quand quelque chose est, il faudrait que ce soit fini et qu'on se rende compte que ce qu'on lit ne va pas être modifié parce que ce sont 500 pages. Donc, j'espère que ça ne sera pas rejeté. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, quelque chose de très important, lorsque on parlait de la vérification, il y a un point très, très important et c'est que s'il y a un problème qui est sur lequel on attire notre attention, il faut faire quelque chose, il faut qu'il y ait une vérification qui soit faite. Et si les choses s'avèrent inexactes, à ce moment-là, il faudra faire quelque chose à ce propos. Et cela inclut la suspension, l'annulation. Donc, ça ne figure pas dans l'accord d'accréditation de bureau d'enregistrement ni dans les spécifications. Et Michele a aussi dit, je pense que c'est un point en avant, et certaines des choses sur la confidentialité des proxys sont correctes. Ce n'est pas encore 100%, mais c'est mieux. Cela nous montre un petit peu le développement d'une autre spécification qui va demander davantage de travail. Mais Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Donc, avant que... J'espère que ces 200 pages n'ont pas été, ou ces centaines de pages n'ont pas été lues pour rien. Voilà. Merci, Holly. Donc, il y aura des modifications dans ce document, mais les 400 pages que vous avez lues, vous allez peut-être devoir les relire. Peut-être que vous allez devoir en relire seulement 20, mais en ce qui concerne le RAA, hein, il y a une trentaine de pages dans laquelle vous allez voir des changements, mais dans ces secteurs où nous avons identifié, il n'y a pas de différences importantes qui vont apparaître. Donc, nous nous focalisons sur ces secteurs et à ce moment-là, les pages qui seront modifiées, ce sera une trentaine, une vingtaine de pages. Hein? Et je voudrais aussi ajouter que je sais que c'est un concept très simple pour moi en tant qu'avocate, mais cette semaine, j'ai parlé avec des gens, je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi clair que cela me paraît l'être. Une spécification qui est ajoutée au document est un engagement de contrainte. J'ai entendu des gens qui disaient que lorsqu'on a quelque chose qui figure dans un ajout, hein, est moins important au niveau du contrat, et ce n'est pas le cas. Hein. Bien. Nous avons eu cette conversation dans notre groupe de travail aussi. Alain, vous voulez répondre? Oui, je pense que j'ai déjà répondu à cela, mais est-ce qu'on peut partir du principe que à part quelques exceptions mineures, la seule chose qui va changer ici, c'est les graves problèmes. C'est les questions qui sont liées aux taxes. Je pense que c'est ça qui va être modifié. Si vous avez remarqué les spécifications, on a identifié certaines de ces spécifications comme la position d'ICANN, comme s'ils ne seront pas obligés de négocier leur position. Il y a certaines modifications mineures à certains documents aussi, comme par exemple les informations du bureau d'enregistrement, les spécifications les concernant. Il va y avoir des changements mineurs en termes de confidentialité, de questions de confidentialité, etc. Et ce qu'il faut aussi regarder pour les changements en termes de spécifications, c'est les spécifications de confidentialité de proxy. Parce que le document qu'on a posté le 7 mars, regardez les contrats, concernait les contrats, il y avait beaucoup de langage légal. Hein. Donc, ce qu'on a fait avec l'aide des bureaux d'enregistrement et on est allé au principe de base pour faire quelque chose de facile à lire. Hein, c'est un document qui est beaucoup plus court, mais qui contient donc ces points, les engagements des bureaux d'enregistrement avec des processus pour les services clients. Et toutes ces choses-là qui sont aussi disponibles sur notre site Internet. Bon. Merci beaucoup, Alain. Alain, je suis ici. Et je dois partir à la réunion de la GNSO. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le nombre de pages que vous avez produites. Moi, je veux vous remercier personnellement. Un grand nombre de ces pages étaient des vues différentes des RAA pour nous permettre à mieux comprendre qu'est-ce qui avait été modifié depuis 2009, quels étaient les problèmes et qu'est-ce qui donnait lieu à des contentieux. Et ça nous a donné la possibilité de l'analyser beaucoup mieux. Donc, quelles que soient les personnes qui ont critiqué, hein, et quelles que soient les personnes qui ont été inspirées pour le faire, je les remercie, je les félicite pour leur travail. Merci, Alain. Oui, je dois dire que ça a été facile pour moi de suivre les négociations, quel que soit le langage et la formulation utilisée. Hein. Michele, oui, très brièvement, puisqu'on parle des spécifications, une chose qui, à mon avis, n'a pas été mentionnée jusqu'à maintenant par ce panel est la standardisation des données WHOIS. je suis un bureau d'enregistrement. Si vraiment je pense que la standardisation de WIS était la pire des choses. Mais pour nous, pour les bureaux d'enregistrement, le fait d'avoir deux parties problématiques, le WIS pour tous les bureaux d'enregistrement de la planète, nous pose vraiment de gros problèmes opérationnels, le remplacement futur et tout ça. Pour nous, c'est très compliqué. Et la standardisation des données WIS, pour nous, c'est une expression générale. Si on peut diviser un petit peu et rentrer un peu plus dans le détail, si on n'a pas ça, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour le moment, mes équipes travaillent avec des défaillances de transfert multiples, parce qu'on a des domaines qui sont transférés à des bureaux d'enregistrement qu'on ne connaît pas. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Donc, il y a toute une série de choses, de caractères bizarres qui rentrent dans le caractère. Peu importe ce qu'ils mettent en dessous de la partie du contrat, mais j'ai vu des choses vraiment avec des choses impossibles. On est au 21e siècle. On n'a pas le droit d'utiliser certaines choses. Donc, voilà, il y a des spécifications ici qui pourraient faciliter la vie de beaucoup de gens. Je pense que Jim peut aussi nous dire comment faciliter les choses lorsqu'on vérifie certaines choses. Mais en tout cas, au niveau opérationnel, ça nous facilite la vie. Merci, Michele, parce que vous encouragez l'équipe de conformité à prendre la parole. Je voudrais écouter donc la réponse de l'équipe de conformité. Et Owen Smogalski. Je dirais que je vais être bref pour ne pas prendre trop de temps. Je dirais que Michele a dit pas mal de choses importantes. Il y a aussi des progrès importants concernant l'exactitude des données WIS et ça va permettre d'appliquer beaucoup plus facilement les contrats. Le contrat est beaucoup plus clair. Il y a des vérifications qui ont faites et tout ça, ça va nous permettre de faciliter notre travail au niveau des actions à prendre. Donc, pour nous, ça va être plus simple. Et je dirais que pour tous les fournisseurs Internet, les acteurs d'Internet, ça va être beaucoup plus facile. Et puis, il y a aussi la phase dans laquelle on devient directement opérationnel et par conséquent, on sera prêt à lancer le système. Merci, c'est très encourageant d'entendre ça de la part de l'équipe de conformité et l'engagement avec l'équipe et les préoccupations de notre équipe, c'était vraiment la conformité. Donc, je pense que d'entendre l'opinion de cette équipe de conformité est très encourageant pour nous. Nous allons maintenant passer au point suivant de l'ordre du jour. Je pense que nous avons maintenant une RAA qui se rapproche de plus en plus de l'objectif pour lequel elle a été créée. Il y a eu plusieurs choses qui étaient sur la table parce qu'on n'a pas contemplé certains nouveaux développements qui vont inclure de nouvelles données du registrant, un service de données du registrant qui va être créé. Nous avons certaines personnes ici qui vont nous en parler. Au niveau de ESSAC, par exemple, Steve Cheng et Francisco Arias. Et donc, on y va. Vous avez la parole. Merci de nous avoir invités. Je vais vous donner une mise à jour rapide des remplacements du protocole WIS. J'ai dans la salle le président du groupe de travail de l'ITF qui va nous donner une rapide introduction. Il y a du travail en cours dans le domaine d'ICANN et dans le domaine de l'ITF. Ce groupe est en train de développer un nouveau protocole pour les données d'enregistrement et d'accès Et dans le domaine d'ICANN, le comité d'évaluation de sécurité a produit un rapport, le SAC 51, pour permettre d'évaluer le remplacement du protocole. Donc, je pense que la question de WHOIS est un problème qui existe depuis de longues années. Et entre autres efforts, c'est je dirais que de la perspective, la communauté technique et la communauté politique sont au courant, se rendent compte des activités qui existent des deux côtés et de façon à obtenir les contributions dans les deux sens. Donc, ce n'est pas une voie à sens unique. Donc, du point de vue du protocole, je dirais que cela permet de mettre en place des politiques, mais ça ne donne pas ces politiques. Le but est d'avoir un protocole qui fournit des options pour les responsables d'élaboration de politiques pour débattre de ce qu'il faut mettre dans ces protocoles et pour que ces protocoles soient soutenus, puissent les soutenir. Donc, je vais maintenant donner la parole à mon collègue ici. Je vais être debout là, parce que sinon vous allez voir mon dos si je m'assois. Donc, je suis Olaf Kolkman. Je suis ici parce que je suis le co-président avec Murray Kucharawi de ce groupe de travail. Ces termes WERTS correspondent à services de données d'enregistrement d'Internet extensible web. Alors, dans le contexte de ce travail, et il y a le WHOIS, comme vous le savez. Le WHOIS est quelque chose qui dépend du comment et du quoi. Pour demander certaines données spécifiques, il faut savoir comment. WHOIS, ce n'est pas seulement un service d'enregistrement pour les noms de domaine, c'est aussi un service d'enregistrement pour les services de données d'enregistrement pour les nombres d'Internet et pour écrire des informations sur Internet. Bien, maintenant, puisqu'on sait ce qu'on veut demander, il faut un contexte. Et les différences entre on va voir ce que sont les différences entre les noms et les chiffres. Ce qu'on a, c'est d'abord quelque chose qui dépend du contexte en termes de comment les choses sont structurées. Ça veut dire qu'il faut écrire des scrippers avec des précision, ce qui a donné beaucoup de soucis aux opérateurs qui sont là. Qu'est-ce qui dépend du contexte? Certains registres sont peut-être pas capables de diffuser des données privées. Certains ne veulent donner que les données qui dépendent de ce que la loi leur indique et qu'ils doivent diffuser, etc. D'autres ne veulent rien publier du tout. Donc, c'est aussi une question qui dépend de la politique et du contexte dans lequel on est. Bien, le comment et le pourquoi et le quoi. L'IEF signifie capturer ces informations dans un protocole pour avoir un Internet qui réponde et qui donne ces données. Nous n'appelons pas cela un protocole WHOIS, mais un protocole d'accès aux données. Et c'est probablement une façon de parler du protocole qui saisit toutes ces choses-là. Pas le WHOIS, parce que le WHOIS, c'est un terme très lourd qui comprend la politique, des façons de travailler. Et nous, ici, nous regardons seulement les données, la façon de regrouper les données. Nous n'avons que 10 minutes, donc si vous pouvez parler un petit peu plus vite. Alors, est-ce que vous voulez connaître le cadre dans lequel nous travaillons, ou est-ce que vous voulez connaître le détail des problèmes que le groupe de travail a rencontré? Bien, le cadre seulement. Bien, alors je vais continuer et je vais passer les détails, si vous voulez bien. Donc, le quoi et le contexte, c'est ce qui vous concerne, c'est spécifique et ça dépend des réglementations. Pour moi, un principe de quelque chose dans ce domaine est un papier de Dave Crook qui s'appelle le cyberespace et qui dit que cela va vous permettre, comment va vous permettre de capter toutes les politiques qui sont disponibles. Bien, donc ce que nous sommes responsables de faire, c'est standardiser un cadre de données unique, donner ces objets de manière encapsulée ou selon un cadre et selon un CRISP en général, selon les exigences d'un CRISP, qui veut dire les services d'Internet. Bien, donc nous voulons nous assurer de produire un protocole facile à mettre en œuvre, quelque chose qui soit disponible. Donc voilà ce que nous utilisons. Donc les différents types de standards qui permettent d'avoir des objectifs de façon très standardisée. Voilà, voilà un exemple de ces demandes, quelque chose de très structuré. Je veux avoir le contexte de cet opérateur d'API où je veux avoir les données d'information de cette, etc. Et alors, vous aurez une langue structurée. Donc, c'est un protocole à lire seulement. Vous demandez une authentification, des mécanismes standardisés d'authentification qui vont permettre de mettre en œuvre des politiques pour différents services par les serveurs qui offrent ces données. Et je vais authentifier en fonction de mon token. Le serveur sait que j'appartiens au service d'application de la loi et va me donner ces données privées et en échange. On sait que je suis dans un contexte donc donné. Tout cela est permis par ce protocole. Tout cela est ce que ce protocole nous permet de faire. On passe une diapo. Voilà, ça c'est donc le contexte. On travaille rapidement pour avoir des spécifications basées sur le travail avant la fin de l'année. Et je dirais que, grosso modo, puisqu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, c'est ce que ce document signifie. Voilà, donc les principaux problèmes. Je dirais que ce qui est important, dans la plupart des cas, c'est l'internationalisation. On avance. Je me dépêche. Puisque nous avons un problème de temps. Donc ici, l'internationalisation, il y a un rapport de la communauté d'ICANN qui s'appelle le rapport final du groupe de travail qui travaille sur les données d'enregistrement, qui va travailler sur les questions de données qui sont dans les protocoles. Nous avons fait une évaluation de ces éléments. Et ici, la première colonne dit quels sont les secteurs qui doivent être disponibles, les données qui doivent être disponibles. La deuxième colonne indique que ce qui doit être internationalisé. Et la troisième dit comment le protocole va développer cela. La dernière ligne, c'est essentiellement le protocole qui permet aux éléments de données d'être internationalisés. Alors, comment et quel type d'internationalisation va être donné par le protocole? Par exemple, la translittération de caractères chinois en ASCII US, ce n'est pas dans ce protocole. Ce protocole peut signaler qu'il s'agit d'un caractère ASCII ou chinois ou d'une langue dans une combinaison de scripts donnés, mais ne dit pas comment est faite la translittération. Pour une question de temps, je vais m'arrêter ici. On va regarder la dernière diapo, en tout cas. Donc, voilà les coordonnées de ce groupe de travail. Si vous êtes intéressé par ce travail, la première adresse va vous envoyer à des documents sur lesquels vous trouverez donc la responsabilité du groupe. Vous trouverez la liste aussi sur laquelle ce groupe travaille. Nous travaillons sur des listes de diffusion principalement. Et si vous êtes intéressé pour suivre ce travail, s'il vous plaît, inscrivez-vous et faites vos contributions. Merci. Nous passons maintenant aux questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions pour cette équipe? Pas de questions? Bien, merci beaucoup Francisco, merci Steve, merci de nous avoir donc éclairés. Il y a un membre de l'APC ici, du groupe, de ce groupe ici, Steve Mattels. Vous connaissez sa formation, vous savez que Alak a toujours eu des préoccupations concernant le WHOIS et le IPC. Donc, j'ai pensé que ce serait important d'entendre de la part de Steve une mise à jour et son impression sur le RAA 2013. Steve, vous avez la parole. Merci, Carlton, et merci de m'avoir invité à vous donner mon opinion là-dessus. Steve Metalic, j'ai oublié. Pardon, j'ai pas assisté aux choses qui ont été dites tout à l'heure, mais je dois dire que Alak vraiment doit être félicité pour cela et le travail que nous avons fait avec Holly, avec d'autres personnes sur Alak, pour l'équipe de rédaction au sein de la GNSO d'Alak. On a identifié une série de thèmes qui ont été abordés. Ça a été tout un long processus. Et je pense que je dois dire que nous en sommes à un point où il y a deux précautions qu'il faudrait prendre concernant ces RAA révisés et outre tout ce qui a été dit déjà auparavant. D'abord, c'est un processus de 4 ans qui date de la réunion de Mexico en 2009. Notre équipe a été réunie en 2010, l'équipe de rédaction. Ensuite, on s'est mis en place, il y avait un petit peu des désaccords quant à le rôle du contrat, la négociation du contrat. Et en résultant, après 4 ans, nous avons eu une période au cours de laquelle on a lancé un commentaire public et nous avons identifié à travers cela les différents problèmes. Et nous sommes arrivés ici à Pékin pour constater lundi que les négociations étaient terminées, que un accord avait été atteint. On n'avait pas vraiment vu encore en quoi il consistait spécifiquement. Bien, donc il y a on peut dire qu'il y a vous savez qu'il y a toujours des petits détails qui sont problématiques dans cet accord, mais quand on voit le texte final, je dirais que je pense qu'on pourrait faire quelques contributions. Le secteur que je vais mentionner est celui des spécifications sur les services de proxy de confidentialité et qui est condensé sur 2 pages. On va voir, on avait quelques soucis concernant ce qui était dans le document de 5 pages et je pense que cela se focalisait principalement sur le fait que les enregistrements confidentiels des proxys pouvaient vraiment être un passage et qui permettrait de miner nos objectifs, les objectifs que nous visons. Et nous avons pensé qu'il y avait certains blancs dans ce document et nous avons voulu et aborder ces oublis. Donc, la véritable question, c'est que si vous avez des services proxy, que vous avez des règles concernant les circonstances selon lesquelles l'identité du vrai registrant doit être connue, ces coordonnées du registrant dépendent d'exigences de vérification et de sanctions s'ils ne sont pas présentes. On a ici un cas d'enregistrement conventionnel. Je dois dire qu'on n'a pas d'exigence de vérification, on n'a pas d'indication de cas où si les données sont fausses, il n'y a pas de conséquence, il n'y a aucune conséquence. Donc nous espérons que ces oublis vont être réglés et si ce ne sera pas le cas, nous aurons un problème. Et le fait est que ces spécifications vont expirer dans 3 ans. Nous le comprenons. Nous pensons que ce n'est pas une solution complète, mais pendant cette période, au moins. Et nous pensons qu'il va y avoir des risques d'abus qui ne vont pas arriver. Donc, je ne sais pas ce qui a été dit ici concernant la date de publication de ce texte. Je pense que c'est ce week-end, non? Donc, je vais vous encourager. Je vais encourager Holly et les autres à rester en alerte et à suivre, hein, à regarder ce texte quand il va sortir. Et merci de m'avoir invité.
Yes, oui.
Merci, Steve. Oui, Jay Carlton, on a vu qu'il devrait y avoir une examination des spécifications et de ce secteur particulier. Donc, on va sans doute l'évaluer et l'analyser pour voir comment ça s'intègre au texte final. Michele, vous voulez parler? Vous avez la parole? Non, c'est pas que j'ai besoin de parler, mais bon, en fait, oui, je voulais dire quelque chose. Je pense que Steve et moi, on va toujours être opposés. Mais par rapport au proxy, j'ai pas dit de texte final, hein. Mais ne venez pas m'attaquer non plus. Vous avez bien essayé, hein, je le sais. Mais donc, la langue du proxy de confidentialité dans le contrat est un aspect pour les propriétaires. C'est une question préliminaire. Et je ne suis pas sûre. Je vois que Cheryl me regarde. Elle va me tuer si je me trompe. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait un PDP ou un groupe de travail ou un endroit où l'on puisse trouver l'accréditation exacte des proxys. Donc l'idée ici, me semble, était qu'on a reconnu qu'on a eu le besoin de faire quelque chose, qu'on devrait améliorer ce qu'on avait et puis continuer. Sinon, on allait rester coincé sur ce point-là, on n'allait plus jamais avancer. Donc en définitive, je parle pour toutes les personnes qui ont été engagées à ce processus, dans ce projet de priorisation, donc d'établissement de priorité. Je voulais savoir quel était donc l'indice de temps. Je ne sais pas si c'était à 3, 4 ans. C'était en 2010 qu'on a commencé. Je me sens plus vieux déjà. Donc, je pense que beaucoup parmi cette question seront clarifiées et puis on pourra continuer. Merci, Michael et Dick Carlton. Pour pouvoir entendre d'autres membres ici, je voudrais prendre un moment pour demander s'il y a d'autres commentaires à faire. Evan, bien, Jean-Jacques, vous avez la parole. Merci, Carlton. Je suis Jean-Jacques Suprena. J'ai entendu bien et j'ai trouvé des personnes qui ont contribué par email, mais j'ai une question pour les personnes qui sont autour de nous. Comment est-ce qu'on le traduira dans d'autres langues? Je ne veux pas dire la traduction littéralement, mais pour ce qui est du contexte, le contexte économique, le contexte social, le contexte juridique, même, est-ce que c'est applicable? Et sinon, quels sont les secteurs où les partie principale de controversie qui doit être modifiée. Merci. Je pense que je comprends ce que vous voulez dire. C'est Michael Nylon qui parle. J'ai un Twitter et je suis ICANN. Et donc, vous pouvez voir sur Twitter ce qui se passe ailleurs dans ICANN. Et l'un des défis auxquels on doit faire face, c'est de trouver l'équilibre entre l'amélioration de la stabilité, de la sécurité, etc., pour continuer de les garantir et de le faire de façon équitable pour ne pas augmenter la division. C'est un problème. Presque de la même façon, Fadi Shehadé et moi avons travaillé. On s'est dit, d'une part, qu'on aurait un nouvel RAA qui sera plus strict, qui sera plus efficient. Et puis 30 secondes plus tard, on s'est dit, on va augmenter notre engagement en Afrique et la quantité de bureaux d'enregistrement. Et cependant, ce n'est toujours pas fini. Mais je sais que c'est une préoccupation parce que certaines des personnes ou des bureaux d'enregistrement à qui je parle constamment sont à Israël, par exemple, et ils ont une adresse postale qui peut être écrite en 3 ou 4 écritures et qui peut être valable. Et je sais que ce sera un problème ailleurs dans le monde. Je ne sais pas très bien si ça correspond à ce que vous demandiez ou pas. Je n'ai jamais essayé de vous attaquer. C'est Jean-Jacques Supronet qui parle. Mais ma question vient du point de vue d'utilisateur. Je suis membre d'ALAC, bien sûr. Et ce qui m'intéresse est de voir quel est l'équilibre entre les exigences, soi-disant des agences de respect de la loi, qui pensent avoir un rôle qui s'agrandit au sein d'ICANN et autour d'ICANN, d'une part, et aussi les droits fondamentaux des utilisateurs, la protection de la confidentialité, les droits civils. Donc, c'est de cet équilibre que je parle. C'est un peu à un niveau plus philosophique, mais ça pourrait être mieux pour l'utilisateur. Merci. Carlton Samuels qui parle. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à cette question? Bon, pour moi, en tout cas, un des aspects centraux pour l'utilisateur est que l'on garantisse que lorsqu'il naviguera sur Internet, lorsqu'il fera des transactions sur Internet, des transactions commerciales, par exemple, il faut qu'il y ait un espace où ils seront sûrs que les personnes avec lesquelles ils sont en train de travailler soient les personnes qu'ils veulent, avec lesquelles ils veulent travailler. Donc, c'est ça qu'il faut équilibrer. Si ICANN garantit que je peux faire confiance aux parties de cette transaction, va fonctionner. Mais sinon, la promesse de faire des transactions en ligne va être érosionnée. C'est ça que Jean-Jacques disait. Oui, Michele. Oui, en fait, je vais devoir détruire votre accord. Alors, je pense que ce que Jean-Jacques demandait était de voir l'aspect confidentiel, donc la liberté d'expression, la protection, pas l'identification. On ne parle pas simplement de nom de domaine et de commerce, parce qu'on ne peut pas, bien sûr, rejeter votre argument. Oui, c'était un exemple, disait Carlton. Oui, dit Michele, mais il y a d'autres aspects, d'autres enjeux ici. Vous l'avez dans votre ordre du jour, mais l'un des aspects qu'on a analysé avec le groupe de travail d'experts, le EWG ou peu importe, je ne sais plus le nom, ce n'est pas dans votre ordre du jour. On essayait de parler franchement et de trouver les exigences et la façon dont tout doit s'intégrer. Et pour moi, en tant que bureau d'enregistrement européen, j'ai vu les accords de 2013 et pour la première fois, ce que l'on a inclus veut dire qu'on tiendra compte des lois irlandaises, européennes et considérer ce qui existe déjà. Lorsque l'on parle de liberté d'expression, c'est un problème beaucoup plus grand parce que même en Irlande, qui est supposée être une démocratie du premier monde, la liberté d'expression n'est pas protégée au même niveau que dans d'autres pays. Donc, par exemple, si je voudrais publier quelque chose sur mon site web personnel, je pourrais me retrouver dans un procès en Irlande dû aux informations que j'ai publiées, alors que dans d'autres juridictions, ce ne serait pas une option parce que c'est ma prérogative d'avoir ma propre opinion. Donc, j'apprécie cet aspect, mais ça pourrait être une conversation beaucoup plus large et on ne devrait pas la rejeter. Et ceux qui me connaissent savent déjà ce que j'en pense. Je pense qu'on ne l'a pas ignoré cette fois-ci. On avance dans ce sens, donc à travers la reconnaissance des lois locales. Merci, Michael et Dick Carlton. C'est un bon commentaire ici. Il nous reste que 7 minutes, donc je vais passer simplement au point suivant dans notre ordre du jour, et c'est les prochaines étapes. Michael l'a déjà mentionné. Et l'année dernière, le conseil de direction a défini et créé un groupe de travail d'experts pour voir ce que l'on pourrait faire pour l'applicabilité de WIS et des lois locales et pour développer un ensemble de perspectives qui seraient les principes qui guideraient le déploiement de la génération des données d'enregistrement et ce genre de services. Le groupe s'est réuni plusieurs fois. Michael fait partie du groupe, comme moi aussi. Et on a discuté la question lors des réunions en face à face, ainsi que lors des téléconférences hebdomadaires. On a accordé la création d'un protocole et on a eu des discussions franches et on communique tout ce dont on est d'accord, ou presque d'accord. Oui, Michael et Nayland, en fait, ce qui était dur était de trouver la façon de parler des différents aspects et ne pas recevoir le rejet de tout le monde. Donc, on le considère depuis une perspective plus structurelle et beaucoup de problèmes ou d'aspects liés au WIS et à la révision devaient analyser ce qu'on avait, essayer de l'améliorer, de le modifier un peu ou de trouver quels étaient les problèmes. Et c'était difficile d'essayer de tirer une conclusion de ce qu'on avait. Mais donc, on a commencé par se demander, WIS, ça fonctionne? Non. Donc, quel est le but? Est-ce que ça satisfait le but? Non. On était tous d'accord là-dessus. Et personne n'était d'accord avec la déclaration qu'on avait préparée. Donc, on essaie de préparer sur la base d'une question, et c'est qu'est-ce ce dont vous avez besoin? Et c'est beaucoup plus simple. Peut-être que quelqu'un voudrait le faire. On a maintenu une session publique ici à Pékin. On cherchait à avoir des contributions. On voulait savoir ce que les gens pensaient, quelles étaient leurs idées. Donc, par exemple, Jean-Jacques, si vous voulez nous faire passer vos contributions, par exemple, sur ce que vous pensez, on aimerait bien les avoir pour les recueillir, pour les intégrer au reste. Et c'est pareil pour tout le monde, hein, parce qu'en fait, pour moi, personnellement, je vais parler en mon propre nom, mais si on produisait un document, n'importe quel serait le nom qu'on va donner à ce document, et quelqu'un vient nous dire, vous ne m'avez jamais donné l'occasion de vous fournir mes contributions. Je vais essayer de les tuer d'abord, mais je sentirais qu'on a échoué. Il faut qu'on s'assure que les gens sentent qu'ils ont eu l'occasion de participer, qu'on recueille les opinions. On ne va pas faire tout ce qu'ils disent, mais au moins, on saura ce qu'ils pensent. Carlton, oui, donc, le point principal que je veux passer ici pour le groupe d'experts est que le consensus fera partie d'un autre processus. Et donc, les contributions s'intègre à un processus de développement de politique qui n'est pas secret. Hein. Et on aura l'engagement de la communauté. Il est important que vous compreniez Et nos intentions sont de considérer chaque problématique de façon organique pour être d'accord sur un cadre de progrès. C'est important pour nous de le faire. C'est aussi important de comprendre que tout cela constituera une possibilité de recevoir des contributions des personnes qui n'appartiennent pas au groupe d'experts, ce qui est très important pour formuler une réponse que nous trouverions bonne et adéquate. Je n'ai pas beaucoup plus à dire là-dessus. Et le point suivant, je répondrai dans 2 secondes. Il nous reste 3 minutes. La déclaration d'Alak par rapport à Ruiz, c'est le point numéro 5. Dans le temps, Alak s'est involué par rapport à Ruiz et ils sont toujours engagés et Heidi a participé et on a essayé de former le consensus à Alak, même parce qu'il y avait même des différentes opinions au sein d'Alak. Ce qui est important est que Alak et At-Large ont toujours insisté à ce qu'il y ait un consensus. Alak a toujours insisté sur l'importance du fait que si on a de vraies préoccupations par rapport à la confidentialité et qu'il y a des instances dans lesquelles il est approprié d'avoir un mécanisme en place pour les préoccupations de confidentialité. Et on a aussi discuté le fait qu'il devrait y avoir une seule politique WIS. C'était probablement l'une des déclarations qu'on a articulées en premier. Et donc, il y a des personnes qui ont recueilli toutes ces informations concernant les préoccupations pour nous. Et donc, on voit que lentement, certainement, on aimerait aller plus vite, mais il y a eu des avances envers la direction où on veut aller. On est sur la bonne voie et on continue de prendre note de ce qui se passe. Et à mesure que l'on avance, on va faire les modifications nécessaires. Je m'excuse, on n'a pas vraiment le temps, mais si vous voulez dire quelque chose, vous avez 30 secondes. Bien. Je suis Shiva Subramanian. Ce n'est pas un commentaire, mais plutôt une question pour M. Michele Nylon. Parmi les conflits qui concernent les données WIS et la valeur des données, les préoccupations sont qui se sert de ces données. Donc, qu'est-ce ce dont un bureau d'enregistrement peut se servir et qu'est-ce ce dont un registre peut se servir? J'ai été à la réunion de ATRT ce matin et j'ai vu que ICANN ne peut pas contacter et s'approcher de tous les registrants. C'est beaucoup de données, hein? Mais je veux dire pas simplement un ensemble de données. Oui, Carlton dit on n'a plus le temps. Michael a dit, est-ce que vous êtes sur la liste de diffusion de ce groupe? Donc, publiez cette liste, envoyez-la sur la liste. Si je ne réponds pas immédiatement, ça veut dire que j'essaie d'organiser mes idées. C'est une bonne question et je ne peux pas répondre en 10 secondes. Carlton, merci, Michele. Et je ferai attention pour m'assurer que cela soit discuté. Il est l'heure. Malheureusement, il y a une autre réunion dans cette salle juste maintenant. Donc, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir participé. Et la liste de diffusion du groupe de travail de WIS est un groupe de travail, correspond à un groupe de travail ouvert, donc c'est une liste ouverte. On est toujours prêt à recevoir de nouveaux participants et on verra bientôt vos commentaires. On les recevra à cette réunion est close.